Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Julien Cellier.
Un air d'Amérique.
Allez, 5h44, nous allons rejoindre comme tous les matins notre correspondant aux États-Unis, Philippe Corbet. Bonjour Philippe.
Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous.
Bonjour Philippe.
Les souvenirs du 11 septembre ravivés hier soir à Manhattan quand un hélicoptère s'est écrasé au sommet d'une tour. Le bilan, on vous le rappelle, un mort, le pilote.
Oui, le maire de New York a fait savoir assez rapidement que rien n'indiquait qu'il s'agissait de terrorisme. Mais beaucoup de New-Yorkais n'ont pu s'empêcher d'y penser, notamment ceux qui travaillaient dans cette tour de 230 mètres de haut, 54 étages, qui ont dû évacuer par les escaliers sans savoir ce qui s'était passé, ni même si le lieu de l'impact était au-dessus ou en dessous d'eux. La seule information dont ils disposaient, c'était une forte odeur de fumée. Ceux qui étaient dans les étages les plus élevés ont senti une intense secousse, comme un tremblement de terre. Quelques-uns ont vu des débris voler depuis leurs fenêtres. Les policiers ont déployé une centaine de véhicules sur place sans savoir exactement ce qu'ils allaient trouver. Les premiers pompiers sont arrivés 4 minutes après l'impact. Il faut noter que cette tour abrite les activités de l'assureur français AXA. Elle se situe entre Times Square et Central Park.
Et que s'est-il passé alors ?
Alors on sait qu'un pilote d'hélicoptère, a déposé des clients sur un héliport près de l'une des rivières qui entourent l'île de Manhattan. Pourquoi a-t-il décollé alors que le temps était mauvais, le ciel très bas? Est-ce qu'il a reçu l'accord de la tour de contrôle de l'aéroport de LaGuardia? L'enquête va devoir le déterminer. Ce qu'on sait, c'est que quelques minutes plus tard, il a percuté cette tour, plutôt sur l'autre côté de l'île. Est-ce qu'il s'est retrouvé dans un nuage et il s'est écrasé en apercevant la tour au dernier moment? Ou est-ce qu'il a délibérément tenté de se poser, ou du moins de viser le sommet de cette tour? C'est l'hypothèse qu'avancent des pilotes qui le connaissent, car il était très expérimenté. Il pense que s'il savait qu'il allait perdre le contrôle de son appareil à cause d'un problème technique, il a peut-être essayé d'éviter de s'écraser au sol en percutant plutôt le sommet de cette tour. Alors ce n'est qu'une hypothèse, mais les autorités confirment qu'on est passé à côté d'une catastrophe bien plus grande. Si l'hélicoptère était tombé entre deux tours en pleine heure du déjeuner, Dieu sait ce qui aurait pu arriver.
Juste une question, parce que ça nous paraît effectivement assez étonnant, nous à Paris où l'espace aérien est absolument restreint, est-ce que les hélicoptères ont le droit de voler à Manhattan ?
Alors c'est vrai que quand je suis au bureau RTL au 24e étage, je vois beaucoup d'hélicoptères voler, mais je suis pas très loin de l'Hudson River et en fait il y a beaucoup d'hélicoptères dans le ciel les jours de beau temps pour les touristes qui veulent prendre des photos ou des hommes d'affaires qui veulent éviter les embouteillages pour rejoindre les aéroports. Mais les héliports sont sur les rives, les hélicoptères volent en fait au-dessus des rivières qui entourent l'île de Manhattan, rarement au-dessus des gratte-ciels. Et d'ailleurs quand il y a des accidents, les hélicoptères s'écrasent généralement dans les rivières. C'est arrivé il y a quelques semaines tout près du bureau de RTL. Et d'ailleurs ils ne peuvent plus se poser sur les tours depuis un grave accident sur celle de la Paname, l'une des plus célèbres de Manhattan, c'était il y a plus de 40 ans. Et l'espace aérien de ce quartier précisément est encore plus restreint depuis l'élection de Donald Trump, car la Trump Tower n'est pas très loin et évidemment elle est considérée comme une cible potentielle.
Merci beaucoup pour cet éclairage ce matin Philippe depuis les États-Unis. On vous souhaite une bonne nuit aux États-Unis et on vous dit à demain.
Bonne journée.
Votre avis compte, venez l'exprimer sur RTL.
Au 32-10.
Alors, on reprend cette discussion avec vous au 32-10 sur les risques de noyade. C'est vrai qu'on approche des vacances scolaires, c'est dans un mois et ce chiffre nous interpelle particulièrement cette nuit. Il est tombé il y a quelques heures. Le nombre de noyades a augmenté de 30% en 2018. 30%, c'est absolument énorme. 1650 cas lors des 3 mois d'été l'an passé. Et les noyades des enfants ont notamment doublé. Axel Lamotte, le président du syndicat des maîtres nageurs sauveteurs, sera avec nous à 6h15 et on en discute avec vous déjà.
Et nous allons en discuter avec une auditrice qui a une petite fille de 5 ans, direction la Meurthe-et-Moselle. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Bonjour Aurore. Est-ce qu'elle sait nager, votre petite fille? Parce que c'est l'âge où on commence et c'est l'âge où les parents s'inquiètent un petit peu moins ensuite, une fois que les enfants savent nager.
Oui, alors non, elle ne sait encore pas nager. Donc il est clair que dès qu'on est au bord de l'eau, que ce soit piscine ou la mer, c'est effectivement déjà la première chose, c'est brassard obligatoire.
Et voilà. Est-ce que vous en discutez avec elle de ce risque potentiel?
Oui. Parce que c'est vrai que les enfants n'ont pas le même, enfin n'approchent pas le risque de la même manière, d'autant plus quand ils sont encore plus petits. Et c'est vrai que non, ça c'était une grande inquiétude. Enfin, c'est ma première source d'inquiétude pour les vacances. La première fois qu'on a loué une maison, c'était de savoir si la piscine était sécurisée, s'il y avait un rideau, s'il y avait une alarme, enfin voilà. Et donc c'est vrai que je n'étais pas tranquille On ne peut pas dire que j'ai passé mes premières vacances au bord de l'eau ou au bord d'une
parce
piscine,
que peu importe les barrières, peu importe les alarmes, il faut quand même en discuter. Comment vous lui en parlez? Quels mots vous utilisez pour qu'elle comprenne bien? Parce que c'est vrai que c'est à 3, 4, 5 ans, ce n'est pas toujours évident de faire comprendre ce risque.
C'est de lui dire effectivement que même si elle a l'impression qu'elle sait nager parce que elle va sauter, parce qu'elle a les brassards, donc parce qu'elle remonte, etc., que pour l'instant elle est trop petite, qu'elle ne maîtrise pas et qu'elle doit obligatoirement être à côté d'un adulte. Mmh. Je dis bien être à côté d'un adulte et pas d'un enfant.
Bon, vous êtes un peu plus sereine pour les vacances qui arrivent quand même ?
Oui, parce que le fait est que je reste toujours à proximité aussi. Après, c'est le rôle des parents, je pense, d'être là. Il n'y a pas de recette miracle, mais le plus qu'on peut, oui, c'est d'être présent juste à côté d'eux quand on est au bord de la mer ou au bord de la piscine.
Et on y reviendra avec le président du syndicat des maîtres nageurs sauveteurs tout à l'heure à 6h15 dans moins d'une demi-heure sur RTL. Merci Aurore pour votre témoignage ce matin. Vous, la jeune maman depuis la Meurthe-et-Moselle. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Une info vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus?
Retrouvez les dossiers de la rédaction sur rtl.fr.